Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment Jakarta a-t-elle détrôné Tokyo comme la ville la plus peuplée du monde? Un texte de John Yoon du New York Times, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Jakarta, capitale vibrante et surpeuplée de l'Indonésie, a détrôné Tokyo comme ville la plus peuplée du monde, selon les Nations Unies, grâce à une nouvelle manière de comptabiliser les populations urbaines. Jakarta compte désormais 42 millions d'habitants, soit à peu près la population du Canada, selon le rapport World Urbanization Prospects 2025 des Nations Unies, publié le 18 novembre 2025. Tokyo, avec 33 millions d'habitants, arrive maintenant au troisième rang. Dhaka, la capitale du Bangladesh, se hisse au deuxième rang avec 37 millions. Il s'agit d'un bouleversement radical du palmarès par rapport au dernier rapport publié en 2018 qui plaçait Jakarta au 33e rang avec 11 millions d'habitants et Tokyo au premier avec 37 millions. Une nouvelle méthodologie. Cet écart immense est attribuable en grande partie à la nouvelle méthodologie du rapport. Auparavant, les estimations se fondaient principalement sur des statistiques officielles nationales qui pouvait utiliser des critères très différents. Cette fois, le rapport explique qu'il utilise une approche uniforme dans les pays pour classer les villes, les villages et les zones rurales. Pour Jakarta, qui s'étend le long de la côte nord-ouest de l'île de Java, la nouvelle méthodologie a intégré environ 30 millions de personnes de plus que les critères précédents auraient permis de compter, selon le rapport. Les statistiques nationales officielles pour la région métropolitaine excluait des communautés densément peuplées, pourtant connectées au centre-ville, précise-t-il. En appliquant ces nouveaux critères, les chercheurs constatent que Tokyo était la ville la plus peuplée du monde jusqu'en 2010 environ, moment où Jakarta l'a dépassée. Tokyo, comme le reste du Japon, a connu une baisse de population ces dernières années. Inégalité. La croissance spectaculaire de Jakarta au cours des dernières décennies a été nourri par une migration massive ainsi que par des projets de développement et d'infrastructures. Cette croissance a engendré des zones d'habitat informel tentaculaires, autant dans le centre que dans les communautés environnantes, où des populations pauvres et ouvrières ont construit des villages et des bidonvilles denses, souvent près de gratte-ciel, ce qui met en lumière les profondes inégalités économiques de Jakarta. Des millions de personnes vivant dans ces implantations informelles, appelées kampung en indonésien, manquent souvent d'eau potable, d'électricité et de systèmes d'évacuation des déchets et ne sont habituellement pas comptabilisées dans les statistiques officielles de la ville, explique Walid Alzamil, professeur d'urbanisme à l'université King Saud en Arabie Saoudite, auteur des travaux sur ces quartiers. La croissance de Jakarta a pollué la ville, engorgé ses routes et surchargé ses infrastructures, en particulier ses canaux et son réseau d'égouts, alors que de nombreux quartiers s'enfoncent par le poids des bâtiments et se trouvent déjà sous le niveau de la mer. En 2022, le pays a même commencé à construire une nouvelle ville, Nusantara, censée remplacer éventuellement Jakarta comme capitale. Planification urbaine. Le rapport de l'ONU affirme que ces conclusions aideront les décideurs, les planificateurs et les chercheurs à améliorer le logement, les transports, l'assainissement, les systèmes de santé et d'autres services publics partout dans le monde, en particulier dans les villes en croissance. Le décompte de l'ONU pour Jakarta inclut les populations de sa banlieue comme faisant partie de la ville, explique Gonggom Tua Sitangang, directeur Asie du Sud-Est pour l'Institute for Transportation and Development Policy, une organisation basée à New York. Cela est significatif pour les politiques de transport collectif, dit-il, parce que les transports se moquent des frontières administratives. Sitangang, qui réside à Jakarta, ajoute que le transport en commun est pratiquement inexistant dans les villes satellites, même si la vaste majorité des habitants ils font la navette vers le centre. Un palmarès en évolution. Le nouveau système a aussi modifié le classement d'autres villes. Dhaka est passée du 9e au 2e rang. Elle devrait devenir la plus grande ville du monde d'ici 2050, indique le rapport. Les chercheurs constatent également que 9 des 10 villes les plus peuplées, Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi, Shanghai, Guangzhou en Chine, Le Caire, Manille aux Philippines, Kolkata en Inde et Séoul en Corée du Sud, se trouvent en Asie. 2 d'entre elles, Séoul et Tokyo, devraient connaître des baisses de population d'ici 2050, selon le rapport. Les villes retirées du top 10 sont São Paulo, au Brésil, Mexico, Mumbai en Inde, Pékin et Osaka au Japon. Un monde plus urbain. La nouvelle méthodologie a d'autres implications. Les chercheurs constatent que l'urbanisation est plus répandue que ne l'indiquent les statistiques nationales. Environ 45 % des 8,2 milliards d'habitants de la planète vivent aujourd'hui en ville, soit le double de la proportion urbaine de 1950. La majorité de la population urbaine mondiale n'habite toutefois pas dans les plus grandes métropoles, mais dans des villes petites et moyennes où la croissance est également la plus rapide, souligne le rapport. Ces villes, notre principale préoccupation, visent les villes qui sont en croissance, déclare Bjørg Sandkjær, secrétaire générale adjointe chargée de la coordination des politiques au département des affaires économiques et sociales de l'ONU, lors d'un point de presse. Il peut être difficile pour les urbanistes de réussir à accueillir toute la population à mesure que la ville grandit, avec des services, des infrastructures, l'assainissement, l'éducation. C'était « Comment Jakarta a-t-elle détrôné Tokyo comme ville la plus peuplée du monde ?» un texte de John Yoon du New York Times, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Que veut dire YEL? Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 30 novembre 2025 dans la presse. YEL. Carte d'identité. Définition. Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier, YEL, et du pluriel, YEL, avec un S, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Le Robert. Formation. Basé sur la contraction des pronoms « il » et « elle ». Attestation, mal définie, mais potentiellement utilisée dès 2013. « Yel » déchaîne les passions. Rarement un mot aussi court aura-t-il suscité autant de discours. Devenu un fleuron de l'univers non-binaire, ce pronom cherche justement sa propre identité dans la langue. Et non sans peine. En France, où il a provoqué une zizanie nationale, il se heurte à de farouches opposants. Au Québec, bien qu'il ait reçu meilleur accueil, il trouve aussi ses détracteurs, galvanisés par le gouvernement provincial qui l'a officiellement exclu des communications publiques cet automne. De leur côté, les défenseurs de l'écriture inclusive n'ont pas dit leur dernier mot. Une myriade de propositions. Il y aurait de quoi rédiger une thèse sur le sujet, avertit Nadine Vincent, professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Avant tout, elle souligne que la question de son utilité se pose. Des grammairiens estiment que « il » fait déjà office de pronom neutre, tandis que les tenants d'une approche sociolinguistique avancent que certains usagers ne se sentent pas représentés dans la langue. En supposant qu'un tel nouveau pronom soit nécessaire, lequel retenir? Une multitude de propositions ont émergé comme AL, AEL, IL, ILLE, YEL, IELLE, IM, IM, M, EM, etc. Et même si « yel » est devenu le plus courant dans l'usage, certaines personnes non-binaires ont clamé vouloir un mot « autre » qui s'affranchirait plutôt de la fusion du « il » et du « elle ». Pas simple. Mode d'emploi recherché. En 2021, le Robert en ligne franchit le pas en intégrant « yel » dans son dictionnaire. Nadine Vincent salue cette prise de position et cette légitimation qui, en dépit des grincements de dents de tous bords, font avancer le « schmilblick ». Mais elle voit au moins trois problèmes subsister. Premièrement, son implantation dans la langue ne semblait pas mûre pour entrer dans un dictionnaire. On peut voir ce qu'a fait le Robert comme un geste social utile, mais d'un point de vue lexicographique, ça n'avait aucun sens parce qu'il n'était pas encore intégré dans l'usage, souligne-t-elle. Le deuxième écueil est relatif à son mode d'emploi. Comment l'accorde-t-on? Qui désigne-t-il? Il est très habituel d'intégrer des néologismes dans la langue française, mais entrer un nouveau pronom, c'est entrer un nouveau système linguistique. Et là, on n'a pas le bagage grammatical qui l'accompagne, souligne celle qui a vu, à travers son apparition dans les médias, toutes sortes d'utilisations disparates. Enfin, la définition du Robert a été remise en question. Présenté comme un pronom neutre, Yel peut ainsi désigner une foule avec des hommes, des femmes et des personnes non binaires. Or, parmi ces dernières, certaines revendiquent qu'il désigne exclusivement leur identité. L'usage ne fait pas tout. Est-on allé trop vite en besogne, sans attendre le campement de Yel dans l'usage? C'est possible. Et l'affaire est loin d'être réglée. Mais la prise de position précipitée du Robert, pour Madame Vincent, a au moins eu l'audace de statuer sur deux points, la nécessité d'un pronom neutre et celle d'opter pour une des formes existantes. On ne peut pas vivre avec 12 options possibles pour la même fonction grammaticale. Les cercles militants pourraient continuer à grincer des dents en se faisant imposer le « yel » alors que certains auraient voulu que chacun puisse choisir son pronom. D'un point de vue identitaire, je peux comprendre. D'un point de vue linguistique, c'est inapplicable. On ne peut pas demander à chacun chaque fois quel pronom utiliser, pointe la spécialiste. Le débat s'est certes un peu calmé et le mot poursuit son bonhomme de chemin dans l'usage, mais le manuel d'utilisation manque toujours à l'appel. À vous de jouer. En espagnol, la question des pronoms personnels neutres pour désigner les personnes non binaires fait aussi débat. L'un d'entre eux s'est élevé dans la mêlée. Lequel? A. Ayo, A-L-L-O. B. Yolo, Y-O-L-O. C. Ayez, E-L-L-E. Bonne réponse, C. C'était « Que veut dire Yel ?», un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 30 novembre 2025 dans la presse.
Trêve de Noël 1914. Ce qui s'est vraiment passé dans les tranchées. Un texte de Rédaction nationale géographique paru le 11 du 11e mois 2025 dans National Geographic. En décembre 1914, tout devint calme sur le front de l'Ouest lorsque des soldats des deux camps, en pleine lune, alors que Noël arrivait, conclurent spontanément des trêves. Ils fabriquèrent des décorations, échangèrent des cadeaux et jouèrent au football. Lors des premiers mois de la Première Guerre mondiale, des soldats allemands décorèrent leurs tranchées avec trois petits points. Lors des premiers mois de la Première Guerre mondiale, des soldats allemands décorèrent leurs tranchées avec des Tannenbaum, des sapins. Quand la Première Guerre mondiale éclata en juillet 1914, Nombreux étaient les Européens qui pensaient que les combats ne seraient à Noël plus que de l'histoire ancienne. Mais ce ne fut pas le cas, et près de 6 mois après le début de la guerre, des centaines de milliers de soldats célébrèrent la période des fêtes du mieux qu'ils le purent dans les tranchées gelées d'Europe de l'Ouest. La bonne humeur de Yule. Dans toute l'Europe, des campagnes permirent de collecter et de distribuer des cadeaux de Noël aux soldats du front. Les soldats britanniques reçurent une boîte en laiton estampée à l'effigie de la princesse Mary contenant du chocolat, du tabac et un message du couple royal qui disait « Que Dieu vous protège et vous ramène sain et sauf à la maison ». Les forces allemandes reçurent des présents de la part du Kaiser Guillaume II. Les soldats eurent droit à des pipes et des officiers à des paquets de cigarettes. Quelques jours avant Noël, le président français Raymond Poincaré visita l'entrepôt parisien où les cadeaux pour les soldats français étaient en train d'être amassés. Un grand nombre de paquets sont prêts à être transportés au front. Les vignerons ont fourni 1 200 bouteilles, rapportait le quotidien parisien Le Temps, le 22 décembre 1914. Joyeux Noël. Le personnel hospitalier fit en sorte que Noël ne passe pas sans une petite célébration en l'honneur des blessés. Mary Dexter, américaine, s'étant engagée volontairement au sein de la Croix-Rouge britannique, décrivit dans le détail les préparatifs de la fête dans ses lettres. Noël est après-demain. Nous sommes occupés, quand nous avons quelques rares minutes de temps libre, à confectionner des chaussettes de Noël en gaze pour nos 200 hommes, chacune contiendra des fruits, de la confiture, du tabac. Dans un hôpital berlinois, les infirmières distribuèrent des friandises et décorèrent de petits sapins de Noël. Louis Johnson, infirmière anglaise, se souvint longtemps des modestes présents tels qu'un paquet de cigarettes ou une écharpe qu'on lui donna afin qu'elle les transmette aux soldats. Et voilà ce que l'infirmière allemande Anna von Mildenburg dit de Noël 1914. L'image restera avec nous pour toujours. La façon dont nous nous tenions tous entre les soldats, les mains jointes avec ferveur, et à la lueur vacillante des bougies de l'arbre de Noël, dans le parfum de sapin de l'arbre scintillant, nous chantâmes doucement le traditionnel chant bien-aimé en l'envoyant vers le ciel, comme une ardente prière, une supplication sincère. Paix pour les hommes de la terre. Les trêves spontanées qui eurent lieu le long du front de l'Ouest, en particulier celles entre forces britanniques et allemandes, comptent parmi les événements les plus célèbres de décembre 1914. La veille de Noël, à certains endroits, des soldats allemands décorèrent leurs tranchées avec des Tannenbaum, c'est-à-dire des sapins, et entonnèrent des chants de Noël. Flottant à travers le No Man's Land, une sérénade de Noël britannique se fit entendre en retour. Le lendemain, les hommes passèrent du temps ensemble en dehors des tranchées, échangèrent des salutations ainsi que des cadeaux, comme du rhum ou des cigares. L'histoire la plus célèbre de cette trêve fut peut-être aussi la plus difficile à documenter, celle des matchs de football qui eurent lieu le jour de Noël. Des témoignages rapportés et indirects firent leur apparition dans les journaux et dans les courriers, mais les témoignages directs d'une personne ayant assisté à un match ou bien en ayant directement discuté, eux, sont rares. L'existence d'un petit match put être authentifiée grâce à 2 lettres écrites par des soldats britanniques, le caporal Albert Wyatt et le sergent Frank Nedden, qui y décrivent une partie à Wulvergem en Belgique. Le récit d'Albert Wyatt fut publié dans un article du Thetford Times décrivant une partie de ballon entre 2 lignes de tir. À l'aide de méthodes similaires, des historiens purent confirmer l'existence d'un autre match à Frillingen en France. Même si les parties furent plus modestes et moins nombreuses qu'on ne le croyait à l'origine, cela n'empêcha pas les commémorations de la trêve qui se tinrent en 2014 de rendre hommage à ces matchs. Une sculpture fut dévoilée à Liverpool et un obus surmonté d'un ballon de football en acier à Saint-Yvon, entre autres. La trêve de 1914 ne dura pas et bientôt les combats reprirent sur le front de l'Ouest. Si les récits de l'observance de la fête par les journaux purent charmer les personnes se trouvant loin du front, les commandants militaires furent horrifiés. Lors des trois Noëls qui suivirent, ils donnèrent des ordres de sorte à empêcher toute fraternisation entre les forces antagonistes. La sauvagerie implacable de la Première Guerre mondiale aurait de toute manière probablement rendu ces ordres inutiles. En décembre 1914, la guerre était encore jeune, mais les hostilités se prolongèrent, et après des années d'horreur dans les tranchées, les soldats, marqués par les combats, s'étaient endurcis. L'attitude vis-à-vis des échanges de cadeaux n'était plus la même. C'était « Trêve de Noël 1914 », ce qui s'est vraiment passé dans les tranchées.
Comment réinventer la culture pour les jeunes? Un texte de Brian Perrault, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse. L'auteur de la célèbre série de romans jeunesse Amos d'Aragon propose des moyens de lutter contre les tendances inquiétantes constatées à propos de la consommation de culture québécoise. Faire aimer la culture québécoise aux jeunes générations n'est pas un défi, c'est une urgence. Une urgence pour préserver ce qui nous définit, pour éveiller la fierté et pour transformer notre patrimoine en une source d'inspiration toujours renouvelée. Mais comment rendre accessible, captivante et significative, une culture aussi riche que complexe à des jeunes dont l'univers est façonné par le numérique, la mondialisation et des défis sociaux sans précédent? À mes yeux, la réponse ne se trouve ni dans la nostalgie, ni dans la répétition, mais bien dans l'audace et la réinvention. Voici quelques pistes, aussi modestes soient-elles, pour métamorphoser ce défi en une aventure collective, créative et rassembleuse. La culture doit aller à leur rencontre. Les réseaux sociaux, les applications mobiles et les plateformes de diffusion en continu ne sont pas les ennemis de la culture, ils en sont les nouveaux vecteurs. Pourquoi ne pas imaginer des capsules TikTok où des influenceurs racontent l'histoire du Québec avec passion? Ou des jeux mobiles qui invitent à découvrir nos légendes urbaines en explorant virtuellement nos rues? La culture, pour séduire les jeunes, se doit d'être brève, percutante et interactive, une expérience qui s'adapte à leur rythme et à leur code. Les jeunes ne sont pas des spectateurs passifs, mais des créateurs en devenir. Pour qu'ils s'approprient notre culture, il faut leur en confier les rênes. Organisons des ateliers où ils pourront réinventer des chansons traditionnelles, écrire des légendes contemporaines ou créer des œuvres inspirées de notre patrimoine. Et si nous lancions des concours d'eux-mêmes célébrant nos expressions typiques ou des défis culinaires mettant en valeur nos produits locaux? Relier la culture à leur passion. Les jeunes d'aujourd'hui sont profondément engagés, que ce soit pour la justice sociale ou la protection de l'environnement. Montrons-leur comment la culture québécoise peut être un levier pour le changement. Mettons en lumière des artistes autochtones qui défendent la nature ou transformons des événements en espaces où le slam, le graffiti ou le théâtre deviennent des outils d'expression et de mobilisation. La culture n'est pas un musée figé. C'est un mouvement en perpétuelle évolution, un dialogue entre hier et aujourd'hui. Libérer la culture des cadres traditionnels. Les jeunes recherchent des expériences immersives, décontractées et inattendues. Pourquoi ne pas organiser des jeux d'évasion inspirés de notre histoire, des soirées contes dans des cafés branchés ou des festivals où la musique traditionnelle se marie à l'électro? La culture doit être accessible, ludique et surprenante, une invitation à l'émerveillement, loin des conventions. Faire de l'école un laboratoire culturel. Intégrons des projets audacieux dans les programmes scolaires. résidences d'artistes, création de fresques murales collectives, spectacles montés par les élèves. Facilitons aussi l'accès aux musées, aux théâtres et aux concerts grâce à des tarifs abordables et des transports organisés. Mais surtout, créons des rencontres entre les jeunes et des artistes québécois pour qu'ils découvrent que la culture est un métier vibrant, une voie pleine de possibilités. Mettre en avant des figures inspirantes. Les jeunes ont besoin de modèles qui leur parlent, qui reflètent leur réalité et leurs aspirations. Promouvons nos artistes contemporains, musiciens, cinéastes, humoristes, écrivains, dont les œuvres résonnent avec leur époque. Construire des ponts entre les générations. Encourageons les jeunes à recueillir les témoignages des aînés, à collecter des recettes familiales ou des histoires de quartier. Formons parmi eux des ambassadeurs culturels capables de transmettre ce patrimoine avec enthousiasme. La culture n'est pas une frontière, c'est un pont qui relie les époques et les communautés. Dédramatiser par l'humour. Jouons avec les clichés à travers des capsules humoristiques comme « Le Québec expliqué aux extraterrestres » ou stimulons la création de mèmes qui célèbrent notre identité avec légèreté. L'humour a ce pouvoir unique de rendre la culture proche, humaine et désacralisée. Célébrer notre langue dans toute sa splendeur. Organisons des ateliers pour explorer la richesse du français québécois, avec ses expressions savoureuses et son évolution constante. Lançons des concours de slam ou de rap en joie pour que notre langue devienne une source de fierté et de créativité. Le québécois n'est pas un patois, c'est une langue vivante, un trésor à faire rayonner. Rendre la culture instagrammable. Créons des installations artistiques qui captent l'imagination, murales interactives, sculptures éphémères, et qui deviennent des lieux de rassemblement. Lançons des défis sur les réseaux sociaux comme hashtag Mon Québec à moi pour que chaque jeune puisse faire partager sa vision de notre culture, parce que ce qui se voit se vit et se transmet. En définitive, la culture québécoise ne doit pas être un héritage poussiéreux, mais une aventure collective, une histoire que nous écrivons ensemble. Pour y parvenir, écoutons les jeunes, donnons-leur la parole et osons innover. Car c'est en la rendant vivante, interactive et profondément pertinente que nous leur donnerons l'envie de la porter, de la chérir et de la transmettre à leur tour. La culture n'appartient pas au passé, elle se réinvente chaque jour. Et c'est à nous d'en être les artisans. C'était « Comment réinventer la culture pour les jeunes », un texte de Brian Perrault, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse.